19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Il est avec Jérôme Carcopino, un des deux chercheurs à avoir fait une loi sur l'archéologie. Toutefois, il ne partage en rien les opinions du premier. Récemment, le journal Le Monde le décrivait comme un redoutable bretteur. Il faut dire qu'il œuvre sur tous les champs de la discipline et même parfois à ses marges. Ainsi, peu après la catastrophe, on l'a vu rentrer dans la zone rouge de Fukushima et en ressortir. Son blog irrite, ses pages Twitter sont très suivies, au point d'avoir une contrefaçon, celle de Sean Penn de Moule, Jean-Paul de Moule. Bonsoir.
Bonsoir.
On le sait, vous êtes ancien président de l'INRAP et aimez rajouter « à vie ». Bête noire de certaines institutions, on vous considère parfois comme un idéologue. Votre appartenance à un petit groupe avec Alain Schnapp, Annick Coudard et feu Serge Clesiou, dénommé la bande des quatre, ne laisse guère de doute sur vos engagements. Hormis votre enseignement de la protohistoire à l'Université de Paris 1, on se souvient aussi de votre livre sur les Indo-Européens, terrible pavé dans la mare de la linguistique. Aujourd'hui, vous nous proposez aux origines l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps, aux éditions La Découverte. Jean-Paul de Moule, récemment, Jean-Jacques Benex me disait que les archéologues étaient sexy. Qu'en diriez-vous? Qu'ils sont nos nouveaux super-héros?
Oui, bien sûr. Notre modèle à tous, c'est notre collègue Indiana Jones, qui nous ressemble à beaucoup d'égards, puisqu'il doit sans arrêt se défendre contre ses collègues jaloux, résister à ses étudiantes et surtout se battre contre l'administration qui perd ses découvertes dans d'immenses hangars.
En tout cas, l'administration, on en reparlera sûrement. Quoi qu'il en soit, à quoi sert l'archéologie ?
Elle sert à beaucoup de choses. Elle sert à faire rêver les enfants. Tout le monde a eu envie d'être archéologue petit, mais seuls les obsessionnels sont vraiment devenus. Elle sert à remplir les vitrines des musées, souvent d'une manière un peu triste et ennuyeuse. Mais on s'aperçoit de plus en plus que dans la mesure où elle est la seule à avoir la profondeur du temps sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité, eh bien, effectivement, elle permet de se poser toutes sortes de questions sur la longue durée. Est-ce qu'il y a vraiment des civilisations qui sont allées dans le mur à cause d'une mauvaise gestion de leur environnement? Est-ce que le pouvoir et l'inégalité sociale ou la violence sont des fatalités inscrites dans nos gènes? Ou est-ce qu'il y a des sociétés qui ont su faire différemment, etc.?
Elle donne en tout cas du sens à notre monde, de la profondeur, vous le disiez. C'est peut-être pour cela que la demande sociale est si forte, car il y a une demande sociale.
Oui, effectivement. Bon, l'archéologie est toujours intéressée autour du mystère, etc. Mais on peut dire que pendant les Trente Glorieuses, ça a été 30 désastreuses pour l'archéologie, puisque tout était détruit sans beaucoup de mesures. Qu'il a fallu attendre les années 80-90 pour que, effectivement, les mesures soient peu à peu mises en place et débouchent sur la loi de 2001 à laquelle vous faisiez allusion. Mais ça s'est fait aussi parce que dans ces périodes un peu d'interrogation qui commencent justement avec la fin des années 70, les angoisses écologiques, les nouvelles maladies, la peur de l'autre et de l'immigration, etc. Là, il y a une vraie demande sur, puisqu'on ne sait pas d'où nous allons, au moins d'où venons-nous.
De quoi cette discipline se revendique-t-elle? De la science ou du patrimoine? Deux champs, deux visions par essence très différentes.
Oui, mais en même temps indissociable, puisqu'on a besoin que ce qu'on appelle de manière un peu significative patrimoine, c'est la même chose en anglais, heritage, alors que les Allemands disent Bodendenkmalpflege, c'est-à-dire les monuments qui sont dans le sol. On a besoin de ça pour pouvoir dire des choses pertinentes et ancrées dans la réalité. Mais effectivement, sauver le patrimoine, qui est une vraie question et dont on reparlera certainement, est absolument nécessaire. Mais après, encore faut-il en faire quelque chose, justement, dépasser le stade des dépôts de fouilles ou des musées. Et c'est pour ça que l'Institut national de recherche archéologique préventive est placé sous la double tutelle du ministère de la Culture, qui gère plutôt le patrimoine, et du ministère de la Recherche.
D'un côté, on a des conservateurs, des gens de musée, et de l'autre côté, on aurait des scientifiques, des chercheurs.
Oui,
CNRS, par exemple.
Il faut évidemment, pour pouvoir conserver intelligemment, être aussi un chercheur, et c'est ce que sont nos collègues du ministère de la Culture en charge de l'archéologie. Mais la fouille, la découverte est un premier, la sauvegarde est un premier moment, mais ensuite il faut en faire quelque chose. C'est mieux quand on sait faire les deux à la fois, quand on est à la fois un homme ou une femme de terrain et un chercheur ou une chercheuse. C'est pour ça que l'INRAP, il y a le mot recherche dedans.
Alors pour moi, il n'y a pas d'archéologie au travers des données brutes. Les données brutes de la fouille doivent être transformées, doivent être publiées. C'est l'élément capital. C'est d'ailleurs la seule chose qui restera, avec bien sûr quelques objets dans les musées.
Oui, bien sûr, c'est la seule chose qui reste, mais elle ne parle pas d'elle-même. Il faut encore savoir les interpréter. Donc il y a une marge large justement pour les interprétations, mais encore faut-il, et c'est pour ça que l'archéologie est aussi une science, avoir des mécanismes de vérification, de validation et de preuve des théories qu'on émet.
L'archéologie ne serait pas une anthropologie du passé pour vous ? C'est une science historique, mais aussi une anthropologie du passé, au sens un peu américain du terme ?
Oui, dans la mesure où ce qu'elle vise à reconstituer, c'est une société. C'est pas juste à mettre des objets en valeur. Et c'est vrai que l'archéologie, à partir du moment où elle émerge vraiment avec les autres sciences à la Renaissance, a eu des définitions successives. Au début, elle s'identifie. C'est la même chose que l'histoire de l'art. On s'occupe que des beaux objets. La Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace. C'est pour ça que j'ai longtemps enseigné dans un institut d'histoire de l'art et d'archéologie. Mais au 19e siècle, quand les sciences se mettent réellement, complètement en forme, ça devient une science auxiliaire de l'histoire, c'est-à-dire que c'est les textes qui ont raison et les archéologues sortent des objets de terre pour illustrer les textes. Mais à partir du moment où on s'est occupé de sociétés sans écriture, c'est-à-dire 99% des sociétés humaines, eh bien on est allé vers la définition actuelle qui est la science qui étudie les sociétés, quelle que soit leur ancienneté, à travers leurs vestiges matériels. Mais l'ensemble des disciplines, l'archéologie, science des vestiges, de la culture matérielle, l'histoire avec les textes, la sociologie avec les comportements, l'anthropologie sociale qui étudie les sociétés traditionnelles vivantes, elles convergent dans une grande anthropologie avec un grand A, c'est-à-dire dans une grande science de l'homme. Mais l'archéologie en est indissociable parce que effectivement, c'est la seule qui ait cette profondeur temporelle.
Les origines. Jean-Paul Demoule, l'archéologie a une double fonction scientifique. Tout d'abord, mais aussi idéologique. Nous voici au cœur de l'enseignement de l'histoire, mais aussi du roman national. En un mot, archéologie et identité.
Oui, bien sûr, parce qu'à partir du moment où les nations se constituent, et il faut se rappeler que la notion de nation est récente. Avant la Révolution française et le romantisme, on avait seulement des royaumes qui étaient gouvernés par des rois de droit divin, donc c'est Dieu qui avait les choses en charge. Ils avaient des sujets, et en fonction des guerres et des mariages, leur royaume s'agrandissait ou rétrécissait. À partir du moment où la Révolution française et le romantisme est défini comme des communautés de citoyens unis par un même destin, eh bien, l'interrogation légitime porte aussi sur le passé et donc on va avoir besoin de l'archéologie. Donc l'archéologie va être très vite instrumentalisée à partir de la Troisième République et de l'école laïque gratuite et obligatoire. On a besoin d'ancêtres comme cette république naît sur une défaite Napoléon III à Sedan. Eh bien, la comparaison avec Vercingétorix des faits, mais permettant la création de la nation gallo-romaine, la comparaison est toute trouvée. Et il va se passer la même chose dans les différents pays à travers le monde, où on va essayer d'ancrer le roman national, qu'il soit conforme ou non à ce que l'archéologie et l'histoire peuvent reconstituer, l'ancrer dans l'archéologie, y compris pour justifier la possession de tel ou tel territoire.
Un bon exemple est aussi sûrement l'État français, Vichy, Vercingétorix et cette sorte de paix gallo-romaine.
Oui, bien sûr, puisque Vercingétorix a été vaincu. C'est aussi un peu le modèle christique. Il se sacrifie pour sauver son peuple. Et il est représenté souvent au XIXe siècle assez proche des traits du Christ dans l'art sulpicien. Mais de cette défaite va naître une civilisation nouvelle, donc gallo-romaine. Et les manuels d'histoire de la Troisième République, puisqu'on est en pleine colonisation, justifient la colonisation en disant, vous voyez, on était un peu des sauvages et on a été civilisés, et nous-mêmes, maintenant, on a cette même tâche, on va conquérir dans nos colonies des populations défavorisées et moins développées que nous, mais nous allons leur apporter la civilisation. Et donc, ensuite, quand on arrive à la défaite de Vichy, eh bien, effectivement, c'est la même matrice idéologique qui va servir. Nous avons été vaincus parce que nous étions indisciplinés, il y a eu le Front populaire, etc. Mais heureusement, avec nos vainqueurs, avec la collaboration avec nos vainqueurs, va naître un ordre nouveau et une nouvelle civilisation. C'était donc toute l'idéologie de la collaboration. Ils ont été très déçus parce qu'en fait, les Allemands n'ont pas vraiment joué le jeu de leur côté.
En tout cas, Vercingétorix sera aussi le premier des résistants. Est-ce que l'on est toujours dans une archéologie instrumentalisée de la sorte ?
C'est le travail, la responsabilité des archéologues, c'est de l'éviter, effectivement. C'est de dire, en l'état actuel de nos connaissances, voilà ce qu'on peut dire, et voilà ce qui est vrai au sens scientifique, et voilà ce qui est faux. Mais simplement, il faut sans arrêt le répéter, parce qu'il y a, sur cette question du roman national, les offensives idéologiques sont permanentes. Et donc, c'est effectivement notre responsabilité, au-delà de dire « j'ai fouillé à tel endroit et j'ai trouvé ça », bon, c'est un bon début, c'est aussi d'être présent dans le débat public pour dire « voilà ce que la science peut dire ou peut dire que ce n'est pas ».
Divers présidents de la République se sont d'ailleurs intéressés à l'archéologie.
Oui, bien sûr.
Récemment.
François Mitterrand, le premier, qui va lancer les grandes fouilles au Mont Beuvray, qui était la capitale des Édouins, plutôt collaborateur d'ailleurs des Romains, et où César va commencer.
Frère de Rome.
Frère de Rome, et où César va entreprendre le récit de la guerre des Gaules pendant les mois d'hiver, juste après sa victoire à Alésia. Donc François Mitterrand va lancer ça, prononce un grand discours justement sur l'archéologie et la nation.
Écrit par Christian Goudineau du Collège de France, c'est bien ça?
En partie. Enfin, on a tous collaboré à un moment ou à un autre à des discours présidentiels touchant à l'archéologie. Et puis après, Jacques Chirac avait aussi un vrai intérêt pour l'archéologie. Son épouse a été notre étudiante à l'Université de Paris 1 en archéologie. Et donc s'y est également intéressé, a également prononcé un discours important en 2005, donc 20 ans après, au Palais de l'Élysée, sur l'archéologie, au moment de la sortie concomitante de deux livres, hein, sur l'archéologie française à l'étranger, et un autre, La France archéologique, 20 ans, etc., rédigé collectivement par l'INRAP.
Le Puy-en-Velay ?
Le Puy-en-Velay, c'était le président de la République suivant, Nicolas Sarkozy, qui prononce un discours un peu étrange, je n'y suis pour rien, et qui explique que c'était un des chemins de Compostelle et que sur ces chemins, c'était sans doute les premiers Européens puisqu'ils allaient à Saint-Jacques de Compostelle. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur Saint-Jacques de Compostelle. À l'origine, c'est la trouvaille par hasard d'un sarcophage romain où on on a décidé que c'était celui de Saint-Jacques, alors qu'il est mort très normalement à Jérusalem, et que par ailleurs, ce Saint-Jacques est le saint qui couvre la reconquête de l'Espagne contre les Maures. Ces deux-là, je pense, se sont un peu accélérés des mésusages du roman national.
Jean-Paul de Moules, on a beaucoup parlé de la maison de l'histoire de France, mais pourquoi d'ailleurs n'y a-t-il pas, pour notre nation, de grands musées d'archéologie nationale dans notre capitale? Rappelons que le Louvre ne remplit absolument pas cet office.
La maison de l'histoire de France était dans son principe, là encore une idée de Nicolas Sarkozy, qui était tout à fait souhaitable dans son principe. Simplement, il l'avait placé dès l'origine, et ça a été qualifié de péché originel par des millions d'historiens, sous la double tutelle du ministère de la Culture d'une part et du ministère, l'étrange ministère dit de l'identité nationale d'autre part. Donc c'était effectivement mal parti. On était déjà dans un quinquennat, donc on a moins de temps et on avait moins d'argent, donc on a essayé de le loger dans un coin des archives de France, donc finalement le projet était mort-né. Mais effectivement, comme vous le dites, dans toutes les grandes capitales européennes, il y a un grand musée qui retrace l'histoire du territoire, des origines jusqu'à nos jours. Un des meilleurs exemples, c'est le musée d'histoire de Berlin, en face des autres musées qui parlent de l'Égypte, de l'Orient, etc. Et dans toute l'Europe centrale et orientale, on a affaire à ça. C'est pour ça qu'on a été un certain nombre, avec Yves Coppens, Jean Guilaine, etc., à demander que, puisqu'on réaménageait toute l'île de la Cité, qu'on y crée enfin ce grand musée d'archéologie et d'histoire de la civilisation française dans son contexte européen et mondial.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Ce grand musée sur l'île de la Cité a-t-il un avenir ?
Eh bien,
est-ce que vous avez lancé le projet ?
Pas tout seul, d'une part. Mais il est évident que l'île de la Cité a été massacrée par le Second Empire, qu'elle est en train de se vider, heureusement, de ses administrations, c'est-à-dire aussi bien une partie de l'hôpital de l'Hôtel Dieu que de la préfecture de police et surtout du palais de justice, qui en plus enferme complètement la Sainte-Chapelle, qui est un des plus beaux monuments gothiques de l'histoire du gothique et qu'on voit pas, quoi, qui est pas du tout mis en valeur.
En tout cas, en attendant ce grand musée, nous voyons émerger depuis une vingtaine d'années le retour de grands thèmes, les Gaulois, les barbares. En un mot, sommes-nous tous Gaulois face aux barbares ?
Bien, le terme de Gaulois, effectivement, est devenu synonyme de Français dit de souche dans toute la littérature d'extrême droite et les sites internet d'extrême droite, ce qui est très étrange d'ailleurs, puisqu'on sait que un tiers des Français ont au moins un grand-parent né à l'étranger, donc les vrais, je connais pas beaucoup de vrais Français de souche. Il y a au moins moi-même, pour avoir fait la généalogie de ma famille sur 10 générations, mais sinon c'est quand même une espèce relativement rare. Mais qu'on vienne aux Gaulois est pas si étonnant que ça, puisqu'on est dans la droite ligne de Vichy, donc c'est assez cohérent. Mais effectivement, on assiste régulièrement maintenant depuis dizaines d'années à chaque rentrée scolaire dans la presse conservatrice que chacun reconnaîtra, l'idée que l'enseignement veut cacher les vrais héros de notre histoire, etc. Ce qui est d'ailleurs complètement faux par rapport au programme. S'il y a une chose que les programmes ont évacuée, c'est la préhistoire et la proto-histoire, mais pour le reste, il y a largement la place. Donc c'est vrai que ce retour des Gaulois, bien malgré eux, est effectivement préoccupant.
Notre appartenance à une communauté, à la nation, aurait donc curieusement besoin de mythes, une mythologie nationale. On parlait de Vercingétorix, on pourrait citer Clovis, Jeanne d'Arc et bien d'autres.
Oui, bien sûr, on a beaucoup parlé de Clovis. Le pape Jean-Paul II au Bourget avait dit « France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Ce qui était un non-sens historique. On n'avait pas dû bien lui expliquer l'histoire de France, puisque quand Clovis arrive avec ses 100 000 francs, tout l'Empire romain est chrétien depuis plus d'un siècle. C'est la seule religion autorisée depuis l'édit de Théodose. Et symétriquement, l'archéologie montre que les pratiques païennes vont durer, notamment dans les cimetières, encore très longtemps. Mais ce qu'on va rencontrer très régulièrement sous la plume dans les discours de beaucoup d'idéologues conservateurs, c'est l'idée que entre les invasions dites barbares et puis l'arrivée des barbares dans nos banlieues, suivez leur regard dans les 20 dernières années, la France éternelle aurait été inchangée. Or, ce type d'affirmation est un non-sens, puisque la France de Clovis, elle n'inclut pas le quart nord-est du territoire actuel, mais il y a la Belgique et l'Allemagne, et on se rapproche du tracé de la France actuelle, pas avant le XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, et il manque encore les Savoies, l'Alsace, la Lorraine francophone, la Corse, etc. D'une part, et d'autre part, on peut montrer, l'INRAP y avait consacré un colloque il y a 3-4 ans sur l'archéologie des migrations qui a été publié, on peut montrer qu'il y a eu sans arrêt des migrations, les Vikings, les Anglais, les Arabes, les Juifs expulsés d'Espagne, les Morisques, les Tziganes dès le XIVe siècle, la suite des reines de France, tout étrangères, les mercenaires des armées royales, où il y a un quart à un tiers d'étrangers, jusqu'aux immigrations de la Révolution industrielle. Donc cette idée de la France éternelle est complètement fantasmatique.
Oui, en tout cas, rappelons toutefois que la responsabilité des archéologues et des historiens, l'archéologie a largement contribué au récit, voire au roman national.
Bah oui, bien sûr.
Elle est fille de la nation dans ce sens-là.
À toutes les époques, bien sûr, elle a été sollicitée. Vous citiez tout à l'heure le ministre Carcopino, qui est l'auteur de la première loi sur l'archéologie, obligeant tout archéologue à avoir une autorisation pour fouiller, mais auteur aussi de la loi excluant les juifs de l'enseignement, aussi bien les enseignants que les enseignés. Il était très conservateur et il s'identifiait à César et il montrait que Vercingétorix était pas grand-chose, etc. Donc l'archéologie, au sens le plus large de l'histoire, effectivement, ont toujours été des otages, pour reprendre cette sinistre expression.
Aujourd'hui, la France éternelle n'intéresse pas les archéologues. Ils ont tort, car elle passionne les politiques.
Mais justement, les archéologues, l'idée qu'il y aurait une espèce de neutralité et qu'il faudrait pas intervenir dans le débat public serait une erreur, parce que les archéologues sont payés pour faire de l'archéologie, et y compris pour la restituer auprès de nos concitoyens. Donc on a à leur expliquer, à donner le résultat des fouilles archéologiques et de nos travaux, non seulement de manière factuelle et ponctuelle, mais dans l'ensemble de leurs implications et comme champ de réflexion approfondie. Et on en parlait tout à l'heure, les questions des effondrements de civilisation, etc.
Grâce à une forte demande sociale d'histoire et d'archéologie, une étrange loi impose en 2001 une nouvelle discipline, l'archéologie préventive. Nous pourrions presque dire que celle-ci invente le métier d'archéologue, ou du moins le reconnaît.
Oui, c'est la première fois. Là, on était dans une espèce de vide juridique que cette loi de 2001, qui est la mise en application d'une convention dite de Malte sur l'archéologie préventive, signée par tous les pays d'Europe, pas seulement l'Union européenne, les 48 pays d'Europe en 1992, qui fait obligation à faire des fouilles avant les grands travaux. Avant, on parlait d'archéologie de sauvetage. Les archéologues couraient derrière les bulldozers pour ramasser ce qui pouvait l'être. Et l'archéologie préventive, les aménageurs, il y a 50 000 hectares à aménager chaque année, attendent poliment que les archéologues aient fait les fouilles pour intervenir.
Le monopole de votre institut sur cette archéologie préventive était du ressort de l'État et donc des citoyens. Il fut rapidement remis en cause au nom de la concurrence.
Oui, c'était position idéologique de, parce que cette loi, malheureusement, avait été prise sous un gouvernement de gauche, celui de Lionel Jospin, avec Catherine Trottmann, et ensuite une majorité conservatrice en 2002, exactement au moment où la loi commençait à s'appliquer partout. Donc un certain nombre d'élus locaux ont considéré que, complètement à tort, je parlais de Jacques Chirac tout à l'heure comme soutien de l'archéologie, c'était cette majorité battue que la loi lui était due et lui était liée. Donc ils ont introduit la concurrence au nom de Bruxelles, ce qui est une espèce d'absurdité et de méconnaissance de ce qu'est la concurrence. Je suis personnellement tout à fait pour la concurrence quand j'achète une voiture ou un ordinateur. Mais là, l'aménageur qui va payer pour les fouilles et qui doit choisir celui qui va intervenir, il ne veut pas acheter la meilleure archéologie possible, la meilleure chronologie du néolithique ou du bronze final. Il veut juste qu'on déblaye son terrain très vite et pas cher. Donc c'est absurde que ce soit l'aménageur et non pas une commission scientifique qui décide de qui va faire les fouilles.
Cette concurrence, on l'a vu à l'étranger, l'Angleterre, les États-Unis, le Québec aussi.
Oui, il y a un certain nombre de pays du monde, en Europe aussi, et les archéologues sont très critiques. J'appartiens à un groupe de travail de l'Association européenne des archéologues qui se réunit chaque année. Et justement, on fait le bilan de tout l'aspect négatif de ces entreprises privées d'archéologie.
Archéologie, science politique, titrait Le Monde. Cela doit vous faire plaisir?
Ben, c'est au sens le plus noble du terme. Le mot politique, c'est le mot grec polis, P-O-L-I-S, si j'ose dire, en grec. C'est la science de la cité des citoyens.
Jean-Paul Demoule, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de votre livre, Aux origines, l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps, publié donc aux éditions La Découverte. Carbone 14 était réalisé par Anna Buy, à la technique Alain Joubert et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons d'autres temps, d'autres lieux.